Chapitre 8e. Le digne homme eût été moins rassuré s'il avait pu, à cette distance et malgré les massifs des arbres, accompagner plus loin des yeux celui qu'il croyait en route vers le bureau de poste d'hier. Gilbert avait à peine fait 200 mètres de ce côté qu'il s'arrêtait brusquement pour partir et d'un pas décidé dans la direction contraire. Encore un quart d'heure, et il s'engageait dans cette fraîche et solitaire vallée du Gapot qui porte, à cet endroit, le joli nom de Sauve-Bonne. Son aspect révélait assez qu'il n'était pas là pour admirer les arbres en fleurs partout épanouis autour de lui, les vignes et leurs jeunes feuillages, la claire eau courante, les chênes lièges, avec le contraste entre la rugueuse écorce grise de leurs troncs intacts et la nuance brune des parties dépouillées et lisses. Cet enchantement du paysage n'existait plus pour lui. Il ne le percevait pas. La tentative de séduction exercée sur sa sœur et que Japheth venait de lui révéler ne justifiait pas seule l'agonie qu'il fuyait en marchant ainsi, et une phrase se répétait en lui. Si c'est vrai qu'il ait courtisé René en me jouant cette comédie, quelle ignoble hypocrisie! Mais si ce n'est pas vrai, quelle honte de n'avoir pas parlé, de n'avoir pas dit à Japheth le voleur du bijou, c'est moi! Et des images surgissaient, posant devant lui un dilemme d'autant plus douloureux que ces jours derniers, les témoignages d'amitié reçus de Neriel avaient été son seul réconfort dans une crise devinée par Japheth, l'éclair d'une seconde, on se rappelle. Tout de suite, quel roman avais-je inventé là, s'était-il dit, et ce roman était la vérité. Le simple inspecteur de police y avait vu plus juste que le célèbre avocat. On se rappelle également son mot sur le danseur confessant son prétendu vol. Il se dévoue pour quelqu'un, et il en est fier. Son intuition avait pressenti là un drame dont toutes les scènes ressuscitaient dans la mémoire angoissée de Gilbert, la dernière y comprise qu'il venait seulement d'apprendre. Il avait, jusqu'à cet entretien avec Japheth, donné à celle qu'il connaissait un sens qu'elle n'avait plus maintenant, si les rapports du danseur et de sa naïve élève avaient été ceux que dénonçait l'avocat, et si cet obscur Neriel avait formé le sinistre projet de se servir de lui, le frère, comme d'un instrument pour cette mainmise sur une héritière. Alors c'est un chantage qu'il voulait pratiquer sur moi, se répétait-il, un hideux chantage. Voilà ce que c'est que d'avoir fait l'horrible chose que j'ai faite. Il se revoyait, 5 jours auparavant, assis à la table de baccarat au casino, et gagnant d'abord, puis perdant. Cette dette, avouée à Japheth, mais en se taisant de la suite, il l'avait contracté dans cette ivresse de la déveine qui paralyse momentanément toute prévision chez le joueur. Un de ses voisins de parti lui avait dit à voix basse, en lui montrant un des employés, « Si vous avez besoin d'argent, cet homme vous en prêtera, pas sans intérêt, mais dame. » Et Gilbert n'avait pas résisté à la tentation. Il avait emprunté à l'usurier clandestin cette somme de 1000 francs, considérable pour son budget d'étudiant sévèrement tenu par son père. Il les jouait, ces 1000 francs, il les perdait. Comment les rendre? Écrire à son père? Cette seule idée le terrorisait. Les demander à sa mère? C'était risquer une de ces émotions que les médecins redoutaient tant pour la cardiaque.
Une fois déjà, il avait eu recours à la bourse de Neriel, mais pour un chiffre infime. Sur le moment, il avait eu honte de recommencer. Que faire, cependant? Il s'était engagé, par un papier signé, à s'acquitter dans la semaine. Qu'arriverait-il? S'il défaillait et que le prêteur s'adressa au colonel ou à Madame Favy? Torturé par cette anxiété, il lui était arrivé, passant à l'hôtel devant une chambre du premier étage, de voir la porte entr'ouverte et, sur une table, une broche laissée là, dans la hâte d'un changement de toilette, par une femme si pressée qu'elle n'avait ni fermé cette porte, ni éteint l'électricité. L'éclavaire d'une émeraude avait saisi l'œil du jeune homme, et dans un raptus presque inconscient, il était entré, il avait pris le bijou, et il s'était sauvé. 48 heures s'étaient passées, durant lesquelles le malheureux avait subi ce total désarroi de l'être intérieur qui suit l'accomplissement d'une action inavouable, et radicalement contraire au type général de notre vie. Le fils du colonel avait pu lutter secrètement contre les étroitesses des règles imposées par son père, et systématiser sa révolte en des paradoxes comme celui qui lui faisait préférer le sort d'un Nériel, simple danseur mondain dans un palace, mais libre, mais aventureux, à l'esclavage social d'un grand fonctionnaire. Ces théories n'empêchaient pas qu'en réalité, par ses mœurs, par ses réactions inconscientes, par son besoin, quand il pensait à sa propre personne, de se façonner une image de lui-même que les autres dussent estimer. Il restait, Jaffe l'avait bien vu, un petit bourgeois français. Cette très belle espèce sociale, si injustement décriée, a, pour vertu maîtresse, l'honneur le plus scrupuleux dans les affaires d'argent. D'avoir, pour la première fois, manqué gravement à cet honneur, stupéfiait Gilbert Favy. À la lettre, il ne se reconnaissait pas. C'était si simple pourtant de le réparer, cet acte. La propriétaire de la barrette pouvait croire qu'elle l'avait mal attaché à son corsage, puis perdu dans un couloir. Il pouvait, lui, la rapporter au bureau de l'hôtel en disant l'avoir trouvée. Cette idée d'une exécution si facile l'avait assaillie non pas une fois, mais 20, mais 30, durant les heures qui avaient suivi, et chaque fois, une image avait surgi pour l'arrêter, celle de la table de baccarat, qu'une hallucination tentatrice lui montrait étalée devant lui, avec les jetons poussés et retirés, avec les cartes allant et venant de la main du banquier à celle des pontes, qu'il vendit ce bijou, qui valait beaucoup plus de 1 000 francs, il tenait de quoi régler sa dette et tenter de nouveau sa chance. Poussé par cette autre idée, il s'était, à plusieurs reprises, arrêté devant les diverses boutiques des bijoutiers d'hier, étudiant à travers les vitres la physionomie du marchand, et il avait reculé devant l'idée de l'interrogatoire à subir. « Votre nom, monsieur ? Votre adresse ?» S'il répondait en mentant, le hasard d'une rencontre pouvait ensuite le perdre. Mais il n'y avait pas qu'à hier, il y avait Toulon, il y avait Marseille. Il avait pris le train un après-midi pour aller dans la première de ces deux villes. Là, il était entré chez un joaillier, soi-disant pour faire estimer la broche. Le chiffre dérisoire, aussitôt indiqué par cet homme, l'avait déconcerté, et plus encore, l'impression d'une complicité sinistre, à lire distinctement, dans ses yeux fixés sur lui, cette pensée. C'est un objet volé. Je l'aurais presque pour rien. Il s'était retiré en rougissant, sur ces mots qui contredisaient son premier prétexte. « Je vous remercie, je reviendrai. » Avec l'épouvante de se voir accompagné jusqu'au trottoir par le marchand qui insistait en tendant la main pour reprendre sa proie. « Je n'ai pas assez examiné l'émeraude, monsieur. J'irai peut-être jusqu'à 700 ou 800. »« Mais je n'ai pas l'intention de vendre ce bijou, » avait répondu Gilbert en s'éloignant hâtivement, et il se retournait à chaque coin de rue, comme un voleur qu'il était, par un geste instinctif qui lui faisait sentir davantage sa culpabilité. « Oui, s'était-il dit en rentrant, il faut m'en débarrasser de cette broche, la remettre où je l'ai prise ou plutôt la jeter. Pour l'argent, j'essaierai encore auprès de Nériel. Il m'en a déjà prêté une fois que je lui ai rendu, alors. » On se souvient du refus opposé par le danseur à cette seconde démarche. Que devenir ? La possibilité d'un voyage à Marseille, avec un résultat plus heureux, s'était de nouveau offerte à cette imagination affolée, et de nouveau, la sagesse d'une restitution. Il était même venu à l'heure où le thé dansant vidait les couloirs de l'hôtel, presque à la porte de Lady Hardran, le cœur battant, les jambes flageolantes, et quand Nériel, sorti de l'ascenseur, était entré par erreur dans une chambre autre que la sienne, c'était bien le frère de René qui l'avait vu s'enfuir, terrorisé et se disant « Non, c'est trop dangereux ». Tous ces souvenirs tourbillonnaient dans l'esprit de Gilbert Favy, tandis qu'il marchait droit devant lui sous le soleil, et que le mistral continuait de déchaîner une tempête dans la vallée. L'orage de son propre cœur ne lui permettait pas de la sentir. Des conséquences de ce vol, il n'avait plus rien à craindre maintenant. La restitution faite, et il le savait par un double témoignage, ce vol même était effacé. Une anxiété pire le suppliciait. Cette enveloppe qu'il avait là, dans son portefeuille, avec l'adresse révélatrice, écrite de la main de Jaffe, allait-il l'envoyer à Nériel et régler ainsi, brutalement, injurieusement, une dette contractée dans des conditions qu'il avait, sur le moment, émues d'une telle reconnaissance? Et il ne les savait pas toutes. il le revivait aussi par la pensée, ce moment-là, où il avait vu Pierre-Stéphane Bertin, mentalement il l'appelait par son vrai nom maintenant, entrer dans sa chambre la veille au matin, comme c'était prêt. Et tout de suite, « Je viens vous dire adieu, je quitte le Médès Palace. Mais pourquoi ? Je suis un peu fatigué. C'est très dur notre métier, vous savez. La saison touche à sa fin. Je vais me reposer à Costebelle pour quelques jours. Seulement, je pars sur une impression bien triste. Laquelle ? Un bijou a été volé. Cette merveilleuse barrette que Lady Ardran portait à son corsage. Vous avez dansé avec elle. Vous vous rappelez la belle émeraude ? Oui, avait dit Gilbert qui se sentait tout entier couvert d'une sueur froide. Cette barrette a disparu, avait continué Pierre-Stéphane. Et quand je suis venu annoncer mon départ au directeur, il ne m'a pas caché qu'il me soupçonnait. Fouillez-moi, lui ai-je offert. Fouillez mes malles. Il m'a épargné cet outrage. C'est dur tout de même de s'en aller dans ces conditions-là, mais qu'avez-vous ?
Rien, avait répondu Gilbert.
Si, mon petit, avait repris Pierre-Stéphane, en mettant dans ce mot d'aîné une tendresse inaccoutumée. Vous ne pouvez pas supporter que je sois soupçonné de cette façon, et je sais pourquoi.
Eh bien oui, avait interrompu Gilbert. C'est moi qui ai pris le bijou, et c'est vrai que je ne supporterai pas que vous soyez accusé.
Je vais le remettre au directeur et tout lui dire.
Et votre maman ? Malade comme elle est, vous lui porteriez ce coup ?
Et voulez-vous que je vous dise comment j'ai deviné, quand le directeur m'eut parlé du bijou, que c'était vous qui l'aviez pris, et toute votre histoire ?
C'est la mienne. Vous l'auriez su aujourd'hui par M. Jaffeux qui est à l'hôtel, et que vous connaissez. J'étais son secrétaire.
J'ai joué comme vous, emprunté de l'argent à un caissier de mon cercle comme vous, à quelque employé du casino, pour rejouer et perdre encore. M. Jaffeux avait dans sa bibliothèque des livres de valeur. Je les ai pris, comme vous, la barrette, dans la chambre de Lady Ardrahan. Seulement, des livres, c'est facile à vendre. Un bijou, non. Vous l'avez encore. Vous venez de me le dire.
En rapprochant ces faits les uns des autres, la disparition de la barrette, vos confidences, la fièvre dont je vous voyais ronger, j'ai eu l'évidence. Je me retrouvais, et tout le drame qui a dominé ma vie. J'ai pensé, je vais savoir s'il est vraiment comme j'étais. S'il vaut mieux que son acte. Je lui dirai que l'on me soupçonne et de quoi. S'il est misérable et qu'il n'ait rien dans le cœur, ça lui sera égal. Et dans ce cas, s'il a du cœur, il sera bouleversé, comme vous l'êtes, mon pauvre ami. Et alors je l'aiderai, comme j'aurais voulu qu'on m'aidât. Je le sauverai.
Gilbert sentait encore l'étreinte de ses mains, si miraculeusement, si humainement pitoyable. Il entendait cette voix fraternelle insister.
Maintenant, soyons pratiques. La première chose, c'est que votre mère ignore tout.
Vous avez pris le bijou pour régler une dette. Vous allez me la dire. Cette fois, je vous prête la somme. Vous me la rendrez comme vous pourrez. Quant au bijou, il ne suffit pas de le rendre. À tout prix, il faut que vous ne soyez pas soupçonné. Donnez-le-moi. C'est encore le mieux. J'irai chez le commissaire. Je lui dirai que j'accomplis une mission dont j'ai été chargé tout bonnement. Il restituera lui-même la broche au directeur. Celui-ci et Lady Ardran seront trop contents, et du diable s'ils s'avisent de penser à vous. Et, 24 heures après, le temps sans doute de trouver le commissaire seul à son bureau, un billet arrivait à Gilbert.
Tout est réglé. Soyez bien tranquille et rappelez-vous votre promesse.
Cette promesse, c'était l'engagement d'honneur de ne plus toucher à une carte que le jeune homme avait rapportée à Jaffeux. Il avait donné cette parole dans un tel élan. Si, à la réception de ce billet, il eut compris que ces mots, « tout est réglé », signifiaient « je me suis dénoncé comme le coupable », quelles larmes de gratitude il aurait versées. Et maintenant, qu'entrevoyait-il derrière ce geste de son sauveur, comme derrière son aide pécuniaire et ses protestations de pitié ? Une manœuvre scélérate, un gage pris sur lui pour le contraindre à quoi ? Était-il possible que cette magnanimité cachât ce ténébreux projet de séduction dénoncé par Jaffeux et que l'aveu de René rendait trop évident. Et d'autres images ressuscitaient. Gilbert se voyait, pédalant avec sa sœur et celui qu'elle appelait M. Nerial, avec un accent qu'il se rappelait, si caressant. Il courait ainsi, sur toutes les routes des environs, sur celle-là même où il marchait à présent. Sans cesse, il lui arrivait de devancer René et le danseur. Que se disait-il, en le suivant ainsi dans un véritable tête-à-tête? Le visage de la jeune fille s'évoquait, rayonnant d'un éclat qu'il attribuait alors à la joie de vivre, au gai soleil du midi, au libre exercice dans ce beau climat. La vraie signification de ce sourire heureux, de ce regard ému, il l'apercevait par une de ces intuitions rétrospectives qui font soudain certitude. « Et moi qui n'ai pas compris ?» se disait-il, comme sa mère. « Jaffe a raison. Toutes ces gentillesses pour moi et cette dernière surtout, qu'il se réservait de m'apprendre au moment opportun, c'était pour me tenir, pour que je plaide sa cause auprès de nos parents. Mais quelle cause? Une demande en mariage? C'est fou! Je lui ai trop parlé de mon père, pour qu'il puisse seulement concevoir une pareille idée. Un enlèvement? Et le pardon ensuite? Oui, c'est cela. » Il y avait bien une autre hypothèse, que sa sœur fût la maîtresse de Nerial. Cette hypothèse, Gilbert ne consentait pas à cela formuler, mais elle était en lui, malgré lui. D'autres images encore l'obsédaient. Le professeur et son élève dansant ensemble, et ce souple corps de jeune fille serré contre ce corps de jeune homme, dans une de ces poses si aisément lascives d'un foxtrot ou d'un chimie. Cet enlacement soulevait dans le frère une fureur contre l'aventurier, dont l'attitude, vis-à-vis de René de lui-même, lui apparaissait de plus en plus comme si préméditée, si obscure, si redoutable. L'avant-veille, il l'embrassait avec des merci répétés comme son bienfaiteur. Une haine l'envahissait à présent, que ce subit retournement rendait plus violente. Il avait pu, au sortir de l'hôtel, hésiter devant l'envoi de l'insultante enveloppe et se dire « Si ce n'est pas vrai, quelle honte pour moi de n'avoir pas parlé !» Il l'éprouvait bien toujours, cette honte du silence, mais elle ne faisait qu'exaspérer sa rancune. Et voici que, passant dans un village, au cours de cette randonnée douloureuse, la vue d'un bureau de poste déclencha soudain en lui le mouvement qui, à cette minute, traduisait en acte ce spasme de colère. Fébrilement, il la tire de sa poche, cette enveloppe. Il la palpe avec un frémissement de joie cruelle à sentir sous la minceur du papier la carte de visite et les billets de banque. Il la jette dans la boîte aux lettres en se disant, cette fois à voix haute, « Il comprendra, lui, et s'il me demande une explication, maintenant que nous sommes quittes, il l'aura. » Comme on voit, la machiavélique rouerie du danseur ne faisait plus de doute dans son esprit. Cette certitude fut encore renforcée quand, au terme de cette promenade, achevée sur le geste vengeur, il retrouva sa mère au Médès Palace, seule dans sa chambre, et qui lui dit « J'ai fait se coucher ta sœur, mon ami. Je sais que Jaffe t'a tout appris, et comment la pauvre petite a éprouvé une grande secousse, et quelles idées folles elle s'était faite. Je sais aussi quel procédé cet homme avait employé à ton égard, ce prêt d'argent, avec l'idée de faire de toi son complice, comme il te connaissait mal, mon Gilbert. Et pour cet argent, tu ne t'es pas adressé à ta vieille maman. Enfin, tout cela, c'est du passé. Nous ne le reverrons plus. Grâce à Jaffe, tu es libéré de ta dette. Je lui ai rendu la petite somme et j'ai réglé au bureau les leçons de danse. Promets-moi seulement de ne parler de rien à René. Ces chagrins de jeune fille, comme celui-là, sont de très petites blessures. Il ne faut pas les envenimer en y touchant. » La consigne de silence imposée par Madame Favy à Gilbert révélait la profondeur à la fois et la lucidité de son inquiétude. La sensibilité de sa fille, on l'a déjà dit, ressemblait trop à la sienne pour qu'elle ne devinât pas la tragédie que provoquait, chez la pauvre enfant, ce douloureux dénouement de sa romanesque illusion. Quel réveil! Découvrir à 20 ans que l'on a donné les premières, les plus virginales émotions de son cœur à un homme chargé de la plus abjecte des hontes, l'escroquerie. La mère en oubliait ses propres inquiétudes sur les parties de jeu de son fils. De quel regard elle enveloppa sa malheureuse enfant durant les 24 heures qui suivirent leur explication, mais sans plus la questionner. Ses anxiétés, elle les disait au seul Jaffe, devenu son confident par la force des choses, et tantôt elle se lamentait, avec un remords toujours renouvelé, sur sa propre imprudence, tantôt elle s'excusait du départ presque immédiat de René, quand l'accusateur de Nerial l'approchait. « Ne lui en veuillez pas, mon cher ami, disait-elle. Un jour, elle vous sera reconnaissante. En ce moment, vous lui représentez l'épreuve la plus pénible de toute sa vie. Vous vous rappelez son mot quand vous lui avez dénoncé ce bandit et de quel accent elle vous a interpellé. C'est bien vrai ? Naturellement, je ne lui prononce plus jamais le nom de cet homme. Elle ne m'en parle point. Mais par instant, je me demande si elle ne s'imagine pas que vous et moi, nous avons machiné un complot pour la guérir d'un sentiment que nous aurions deviné. Et puis, même sans conjuration de notre part, elle peut croire que ce garçon était calomnié, que nous l'avons condamné sans preuve suffisante, sur des apparences, sur un malentendu, que sais-je. Une femme qui aime a tant besoin d'estimer celui qu'elle aime. Et qu'elle l'aime, le misérable, j'en suis trop sûr. Je ne le constate que trop à sa pâleur, à ses silences, aux traces de ses larmes sur ses pauvres joues creusées, car elle pleure maintenant. Ah, que j'étais coupable !» L'intuition maternelle ne se trompait pas sur le principe de la gêne, presque insupportable, que la présence de Japheu infligeait à la jeune fille, ni sur la nature du travail mental qui s'accomplissait en elle. Le caractère de l'avocat rendait indiscutables les deux accusations qu'il avait portées. L'amoureuse enfant les discutait pourtant avec elle-même. Du premier vol, celui des livres, Japheu n'avait dit que le fait matériel, sans entrer dans le détail des circonstances. Ne pouvait-il pas s'être abusé ? René se rappelait, au cours d'un dîner chez eux, à Paris, l'avoir entendu lui-même parler des erreurs judiciaires et citer des exemples célèbres. Quand des tribunaux composés de plusieurs magistrats se laissent égarer, comment admettre l'infaillibilité d'un homme seul ? Mais il y avait le second vol et l'aveu au commissaire. L'étrange don de double vue que possède l'amour mettait cet enfant sans expérience sur le chemin de la vérité. Elle entrevoyait l'hypothèse que son coup d'œil de policier avait suggéré aussitôt à l'inspecteur et que Japheu avait accepté une minute pour la rejeter bien vite. « Il a avoué, » répétait-il. « Avoué ? Et si, par générosité, il avait voulu sauver quelqu'un ? » Et la secrète rancune de son ancienne jalousie se fixant sur un nom. Si c'était cette abominable mademoiselle Morange, par exemple, qu'elle eût volé le bijou, pris peur, demandé son aide et qu'il ait eu pitié d'elle. Ce dévouement de Nerial pour sa camarade eût impliqué une tendresse dont la seule idée faisait mal à René. Et, se rejetant en arrière de toute la force de son cœur, « Je suis folle. » Monsieur Japheu avait l'air si assuré dans ses affirmations, et papa l'estime tant.